Vous êtes sur RTL.
Marion Ferrer, bonsoir Marion.
Bonsoir Peggy, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Dès le début de ce journal, retour sur l'exploit de Franky Zapata. Le Marseillais a réussi ce matin à traverser la Manche sur sa machine volante. Aux États-Unis, après les deux fusillades qui ont fait au moins 29 morts, l'opposition réagit et s'attaque au président Donald Trump. Dans le Gard, l'inquiétude des habitants à Générac. L'incendie mortel a coûté la vie à un pilote de bombardier d'eau et ravagé 800 hectares. La piste criminelle est privilégiée. Les vacances, Bison Futé avait hissé le drapeau orange aujourd'hui. C'est moins compliqué qu'hier, mais Pierre Collat, en Vallée du Rhône, ça bloque encore et toujours.
Oui, principalement entre Tain-l'Hermitage et L'Oriol, sur l'A7 en direction de la Méditerranée. Entre le péage de Vienne et Orange, il faut encore compter 3 quarts d'heure de temps de trajet supplémentaire actuellement. Dans l'autre sens, vous perdez une quinzaine de minutes en remontant vers Lyon. Et puis sur l'A62 entre Bordeaux et Toulouse, attention à cet accident au kilomètre 155 en direction de Toulouse. C'est après la sortie 8, Valence d'Agen.
Radio Guidage signé Pierre Collat. Les courses avaient lieu à Deauville cet après-midi. Il fallait jouer le 9, l'As, le 2, le 5 et le 15. La météo pour demain, des températures en baisse et une nouvelle dégradation. Météo complète à la fin de ce journal avec Valérie Quintin.
RTL Soir,
Marion Ferrer.
On vous en parle depuis ce matin. C'était un événement à suivre en direct sur RTL. Franky Zapata a réussi à traverser la Manche sur sa machine volante. Départ depuis Sangatte pour arriver à Douvres en Angleterre. 35 km au-dessus de la Manche. 22 minutes pour rentrer dans l'histoire. 10 jours après un premier essai qui avait échoué. Un exploit que vous avez suivi pour RTL, Maximilien Carlier.
8h15, décollage, l'odeur de kérosène, un vrombissement insupportable, 200 personnes regardent Franky Zapata s'envoler. 10 minutes plus tard, le voltigeur doit se ravitailler en carburant et pas évident de poser son flyboard à cause du vent.
Et le poser sur le bateau a été compliqué, ça bougeait encore pas mal, j'ai raté la première approche et je me suis posé à la deuxième. C'était pas un atterrissage des meilleurs que j'ai fait quoi, c'était bam, je me suis posé vite par terre. Donc.
2 minutes de pause ensuite, le Marseillais de 40 ans souffle, boit un peu, le plus dur est fait.
La deuxième partie, après je savais très bien qu'une fois avoir atterri, j'avais fait 90% du job.
Et Franky Zapata repart pour 10 minutes de vol.
Là, j'ai commencé à me décontracter et j'avais quand même les cuisses qui brûlaient, mais bon, ça, c'est pas grave. Et du coup, j'ai commencé à prendre du plaisir quand j'ai vu les White Cliffs. Là, c'était juste fabuleux. Quoi.
Les White Cliffs, ce sont ces falaises blanches à Douvres. La planche volante se pose à 8h37. Franky Zapata est le premier homme à traverser la Manche en flyboard.
Récit d'une journée historique avec Maximilien Carlier pour RTL. L'autre star de cette journée, c'est donc cette machine volante, une planche à propulsion, le flyboard, dont l'avenir reste encore à définir selon Gérald Felzer, ancien pilote de ligne et expert aéronautique.
Le rêve absolu, évidemment, est de sortir cet engin du coffre, s'installer dessus et puis vogue la galère. Non, définitivement, il n'y a pas d'avenir pour des amateurs. On verra pas la moindre personne aller chausser les chaussures volantes et partir comme ça. Parce que c'est délicat, c'est instable, il faut jouer de son corps, il faut être champion comme lui, il l'est. En revanche, il peut avoir un avenir, par exemple, les militaires l'ont financé pour pouvoir avoir un laboratoire volant, finalement, qui est assez bon marché. Donc on voit que les militaires s'y intéresse un peu. Et puis de mon côté, je regarde de près aussi sur les pays en guerre si ce genre d'engin peut dépanner ou désenclaver des régions pour livrer des médicaments ou évacuer des gens.
Propos recueillis par Thomas Dulin pour RTL.
RTL Soir,
Marion Ferrer.
À Générac, dans le Gard, l'émotion est toujours très vive après l'incendie mortel. Un pilote de bombardier d'eau, vous le savez, décédé vendredi dans le crash de son appareil. Au total, 800 hectares ont été ravagés en à peine une semaine. Hier, 2 personnes ont été interpellées avant d'être relâchées. Les enquêteurs s'orientent vers la piste criminelle, chose qui ne fait aucun doute pour les habitants, Patrick Tégéraud.
Le Mas Thomas est la seule habitation détruite de Générac. Au milieu des ruines fumantes, les taureaux camargués déambulent. Yves Thomas a tout perdu.
Mais bien sûr, c'est criminel ça. C'est pas... Le premier feu, je sais pour qui ils l'ont fait. Je l'ai dit aux gendarmes. Mais celui-là, ils l'ont pas fait pour moi, puisque c'est parti de loin là-bas.
Ça arrive qu'on allume un feu par vengeance, par jalousie.
Ah oui. Je sais pas, il y a la chasse, il y a tout ça. Mais on peut pas incriminer personne. On n'a pas de témoignage, on arrive.
Un peu plus loin, au pied de la colline, Yvon a pu sauver ses chevaux en prenant de grands risques.
Ben, je pense que le type qui a mis le feu, ben, moi j'y mettrai le feu aux fesses aussi. C'est un criminel, quoi. Faut dire ce qui est.
en deux fois quand même. Malheureusement, il y a un pilote qui est décédé. C'est pour ça que je dis que c'est un criminel. Bon, il n'y a pas la peine de mort, mais il la mérite.
Son épouse, Sylvette, est inquiète.
Il peut continuer, bien sûr. Bien sûr. S'il y a du vent, il peut mettre très bien le feu un peu plus loin et que ça reprenne. Et ça, bon, il ne faut pas. Il faut essayer de le retrouver et vraiment de le condamner.
Tous les services de gendarmerie sont mobilisés. Et depuis le décès de Franck Chesneau, le pilote, les incendiaires encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
Reportage à Générac de Patrick Tégéraud pour RTL. À Nantes, suite au rassemblement qui a débordé hier en hommage à Steve, la police a effectué 45 interpellations. Il y a eu 41 gardes à vue et une seule personne reste aujourd'hui en détention. L'homme est soupçonné d'avoir blessé un commissaire au visage avec un pavé. Il sera déféré demain au parquet. À Pornic, en Loire-Atlantique, un hôtel-restaurant a servi par erreur du détergent à la place d'un jus de fruits maison à une fillette de 22 mois. L'établissement parle de produits lave-vaisselle. L'enfant est actuellement hospitalisé au CHU de Nantes. Elle est hors de danger, mais pourrait perdre son œsophage, selon son père. Et au large de Ouessant, un voilier inoccupé a été repéré à 5 km des côtes hier. Les sauveteurs de la SNSM n'ont retrouvé personne à bord. Les recherches aériennes n'ont rien donné. Le bateau transitait entre l'Irlande et la France. D'après les enquêteurs, une seule personne aurait dû se trouver à bord, un homme de 57 ans. Tous ses effets personnels ont été retrouvés dans le voilier. Un nouvel office anti-drogue va être créé en septembre prochain, un moyen d'assainir la lutte contre le trafic de stupéfiants. Une note confidentielle rédigée par Jérôme Bonnet, directeur central de la police judiciaire, vient d'être révélée. Elle interdit aux grands flics de conserver leurs indics. Cindy Hubert, c'est la fin de pratiques policières douteuses.
Absolument, cela veut dire tout simplement que les commissaires et les hauts gradés de la police judiciaire n'auront plus le droit d'avoir leur propre tonton. D'ici la fin de l'année, des subordonnés, des officiers ou des gardiens devront reprendre ces sources. Un changement d'air radical au sein de la police pour en finir avec la culture du chef électron libre qui frayait parfois en zone grise à la limite de la légalité. Car si un indicateur est essentiel pour obtenir des informations, boucler une affaire et faire tomber un réseau, notamment dans tout ce qui est trafic de stupéfiants, la relation policier-tonton n'est jamais de tout repos entre manipulation ou même corruption. C'est ce qui avait signé la chute de Michel Néret, l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise. Avec cette circulaire, les traitants d'informateurs seront ainsi contrôlés en haut lieu par des supérieurs hiérarchiques sans que le cadre juridique ne change. L'identité des tontons restera soigneusement codée, leur nom absent de toute procédure judiciaire.
Cindy Hubert du service police-justice de RTL. On marque une pause dans un instant, nous reviendrons sur les deux fusillades qui ont secoué la nuit dernière les États-Unis.
Marion Ferrer.
RTL Soir.
Le grand.
Citroën.fr.
RTL Soir avec Marion Ferrer.
29 morts, on vous le disait en début de ce journal, au cours des deux fusillades qui ont secoué la nuit dernière les États-Unis. La première à El Paso, au Texas, ville à majorité hispanique. Un homme blanc, âgé de 21 ans, a tué 20 personnes dans un supermarché. Il a laissé derrière lui un manifeste orientant les enquêteurs vers la piste d'un crime raciste. Le suspect a été arrêté. Quelques heures plus tard, à l'autre bout du pays, dans l'Ohio, un homme a abattu 9 habitants de la petite ville de Dayton. Le bilan compte aussi 27 blessés. Le tireur, cette fois, a été abattu. Donald Trump n'a pas encore réagi depuis cette seconde tuerie. L'opposition, quant à elle, le désigne comme principal coupable, Pauline Simonet.
D'ordinaire, les premières heures qui suivent une fusillade aux États-Unis sont consacrées au recueillement et à la prière. Mais après ces deux bains de sang consécutifs, la polémique et les accusations visant le président n'ont pas tardé. Dès la nuit dernière, des centaines de femmes ont manifesté devant la Maison-Blanche. Fini le silence, mettez fin à la violence. Ces mères de victimes tuées par arme à feu exigent une action du président. Et alors que la police suspecte que le tueur d'El Paso soit un suprémaciste blanc, Donald Trump est attaqué directement par de nombreux candidats démocrates qui visent la présidentielle de 2020. Ils l'accusent d'attiser la haine raciale, comme Beto O'Rourke, lui-même originaire d'El Paso.
C'est un raciste et il diffuse son racisme à travers notre pays. Cela ne fait pas que heurter nos sensibilités, cela transforme fondamentalement le caractère même de notre nation et cela mène à la violence.
Le président américain n'a n'a fait aucune apparition publique depuis la première fusillade et ne s'est exprimé pour l'instant que sur Twitter, dénonçant un acte haineux et lâche.
Pauline Simonet, correspondante de RTL à Washington, et les autorités viennent de faire savoir qu'au Texas, la peine de mort sera requise contre le tireur. En Russie, à Moscou, plus de 800 manifestants ont été arrêtés hier. L'opposition avait appelé une nouvelle marche pour des élections libres et équitables en septembre prochain. Le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, se trouve déjà en prison. Le gouvernement allemand est le premier à réagir aujourd'hui. Il dénonce des arrestations disproportionnées. À Hong Kong, de nouveaux affrontements ont aussi éclaté ce soir entre manifestants et forces de l'ordre qui ont une nouvelle fois utilisé les gaz lacrymogènes. Une grève générale est prévue demain. En sport, en cyclisme, Julian Alaphilippe remonte en selle. Il est au départ de la ronde d'Aix dans un peu plus d'une demi-heure. Il est le tenant du titre. Hier, le Français s'était élancé sur la classique de San Sebastián dans le Pays Basque espagnol. Le tricolore avait finalement abandonné 90 km plus loin, exténué 6 jours seulement après la fin du Tour de France. Porteur du maillot jaune pendant 14 jours sur le Tour, Julian Alaphilippe savoure sa nouvelle notoriété acquise sur les routes de la Grande Boucle.
Quand j'ai pris l'avion pour aller à Saint-Sébastien, tout le monde me reconnaissait dans l'aéroport. Ça, c'était une première pour moi parce que j'ai l'habitude de répondre aux sollicitations et aux fans. Mais là, je suis arrivé à l'aéroport, j'avais l'impression que tout le monde me regardait et ça, c'est spécial. Je me suis rendu compte que le Tour a vraiment marqué les gens. Donc voilà, il faut juste rester tranquille, rester soi-même et puis penser à soi surtout parce que il reste encore des courses jusqu'à la fin de saison, donc tout ne s'arrête pas au Tour, et enfin pour moi en tout cas, et j'essaie de faire plaisir aux gens et de penser aussi un peu à moi. Forcément, j'ai fait rêver les gens cette année, mais l'année prochaine, je viens pas pour gagner le Tour. Par contre, je vais continuer à faire du vélo comme j'aime le faire.
Julian Alaphilippe au micro RTL de Samia Belbachir. Le Grand Prix de Formule 1 en Hongrie, c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé sur Mercedes. Et en football, en Angleterre, se disputait cet après-midi le Community Shield, le trophée des champions de la Premier League, Liverpool contre Manchester City. C'est City qui vient de s'imposer au tir au but.
Marion Ferrer,
RTL Soir.
Si vous êtes en vacances dans le Loir-et-Cher, vous vous êtes peut-être rendu à Beauval pour aider le petit panda Yong Meng à souffler sa deuxième bougie. Le zoo a évidemment fêté l'événement en grande pompe. Depuis 2 ans, le bébé panda a fait exploser le nombre de visiteurs. La direction estime que 200 000 personnes de plus sont venues dans le parc depuis sa naissance. Delphine Delors, directrice de la communication du zoo, confirme que Yong Meng a beaucoup apporté.
Qu'il est parrainé, tout l'argent va à nos programmes de conservation en règle générale. Or, il est beaucoup parrainé, c'est quelque chose de très important chez nous. Les visiteurs peuvent parrainer un animal, donc ils reçoivent des nouvelles. On peut dire merci au petit panda pour tout ce qu'il a fait pour aider à la protection de ses congénères. Il ne pourra pas rester encore très longtemps avec sa maman, puisque dans la nature, il s'en séparerait naturellement entre 2 et 3 ans. Donc c'est à peu près à ce moment-là qu'il repartira en Chine. Évidemment, on aura beaucoup de tristesse de le voir partir et en même temps, une très grande satisfaction parce que c'est une victoire d'avoir eu ce bébé pour les parcs zoologiques. Donc oui, une tristesse affective, mais aussi une très grande satisfaction de voir qu'il va pouvoir participer à un programme mondial.
Delphine Delors avec Aurélia Valarié pour RTL. Les vacances, il n'y a pas que la plage et la montagne. La ville fait aussi des heureux et c'est même le moment idéal pour découvrir Paris sans les Parisiens. La capitale respire et les touristes en profitent, Romain Houg.
Sur les Champs-Élysées, le bruit des fontaines a remplacé le vrombissement continu des moteurs. Comme tous les premiers dimanches du mois, l'avenue est piétonne pour le plus grand bonheur des touristes en vacances dans la capitale. Christine, la cinquantaine, est venue du sud de la France avec 14 amis à elle.
Nous sommes allés au musée de l'Orangerie, on remonte les Champs-Élysées. C'était la découverte de savoir que c'était une journée piétonne. À une super belle surprise avec le beau temps. On est très bien.
Lorsqu'on vient en vacances à Paris, il y a les incontournables musées, balades et restaurants. Sandra, 45 ans, et sa mère Armande, de Montpellier-Rennes au Tain. Allez, ont presque tout fait.
Le truc de touriste de base, il nous manque le bateau mouche et la tour Eiffel.
Et là, ce sera bon, on aura tout coché.
Presque tout, oui.
Et puis il y a ceux qui ne quittent pas Paris. Marie-Chantal, 70 ans, y réside depuis près d'un demi-siècle. Impossible pour elle d'envisager passer ses vacances ailleurs qu'ici.
Je suis complètement intoxiquée à Paris. Quand je pars à la campagne, au bout de 4 jours, j'en peux plus et j'ai tout ce que j'aime ici.
Marie-Chantal l'assure, l'été à Paris, c'est moins de monde dans les transports et surtout des sourires et une atmosphère plus détendue. Bref, tout ce qu'il faut pour passer de bonnes vacances.
Reportage dans les rues parisiennes avec Romain Hougue. Le temps, Valérie Quintin, on change de registre à partir de demain. Bonsoir Valérie.
Bonsoir, oui c'est vrai que ça va changer un petit peu demain. On va avoir une baisse des températures, un ciel beaucoup moins lumineux. Alors le soleil, le plein soleil, on le trouvera toujours sur les bords de la Méditerranée, mais également dans la vallée du Rhône. Et puis ailleurs, on va passer par des passages nuageux un petit peu plus nombreux et on aura même un petit peu de pluie, surtout l'après-midi entre la Loire-Atlantique et le Nord, en passant par l'Île-de-France. Ce sera un petit peu incertain aussi sur la Normandie et sur la Bretagne. Et puis il faudra compter sur des orages en montagne, sur le Massif central, les Alpes et les Pyrénées. Les températures demain matin au réveil, un petit 14 à Cherbourg. Il fera 18 à Paris, 19 degrés à Nancy, 20 degrés à Montpellier. Dans l'après-midi, comptez 22 degrés à Brest, 26 à Lille, 29 degrés sur Paris et Limoges, 31 à Strasbourg, 32 degrés à Toulouse et Marseille, encore 33 degrés à Lyon et un bon 35 à Montélimar. Et puis pour le reste de la semaine, les températures vont baisser encore un petit peu pour être autour des normales, pas de retour de la fraîcheur, avec des dégradations orageuses successives entre mardi et vendredi. D'ailleurs, sur l'après-midi de mardi, on pourrait avoir de gros orages à surveiller dans l'Est et dans le Centre-Est. Quant au week-end prochain, il se profile tout aussi orageux.
Merci Valérie. 18h18 sur RTL. Dans un instant, l'invité de RTL Soir.